Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, chapitre 14, Les anges des faubourgs. Artus avait fini par s'agréger à la petite bande d'enfants qui gravitait autour d'Iraine. Les jeunes spiritualistes, qui n'avaient pour la plupart pas de souvenirs précis de la cité-monastère, avaient vécu reclus dans la forêt pendant la majeure partie de leur existence et avaient du mal à se mêler à une société si nombreuse. Ils n'avaient ni famille, ni lieu propre, ni d'ailleurs propriété d'aucune sorte. Ils n'étaient avares que de leurs paroles, mais ni de leur temps ni de leur espace, et ne comprenaient guère les usages des enfants d'Albâtre, habitués à posséder et à jouir, à imiter les adultes et à user entre eux de commerce et de politique. Aussi les rescapés, comme on les appelait parfois, restaient-ils entre eux. Quelques orphelins des faubourgs leur emboîtaient parfois le pas, mais dans l'ensemble, ils ne se mélangeaient pas. Il y avait les plus âgés, Marvan et Soleya, un garçon d'une douzaine d'années et une fille de 10, et puis les autres qui s'égrenaient par ordre de taille et dont Artus formait le benjamin. Les enfants obéissaient avec une révérence absolue aux prescriptions d'Iraine, qui leur enseignait des techniques spirituelles assez poussées, les astreignait à une heure de silence chaque jour, les disciplinait par des horaires stricts et des répétitions inlassables de chants et de dits. Mais ces activités ne leur prenaient pas plus de la moitié du jour, et le reste du temps, ils étaient libres et papillonnaient en ville ou plus souvent dans les faubourgs et la campagne environnante. Tout leur était sujet d'étonnement, mis à part la prodigieuse précocité d'Artus, qu'il semblait considérer comme une caractéristique comme une autre. Ils lui demandaient souvent des explications aux mystères humains et sociaux qui fleurissaient sous leurs yeux. « Quels sont ces morceaux de métal que les gens donnent en échange de leur nourriture ?» Artus tâchait de réfléchir à ce qui lui paraissait évident, exercice souvent difficile, dont il se tirait assez bien la plupart du temps. Cela s'appelle de la monnaie, des oboles. On n'échange pas directement les objets, on les donne contre des oboles, pas toujours le même nombre. Est-ce que le travail aussi s'échange contre les oboles? Certains travaux, je crois. Pourquoi ces femmes portent-elles une coiffure si compliquée? Cela doit leur prendre beaucoup de temps. Est-ce un rituel spirituel? « Non, répondait Artus, ce n'est qu'une mode. »« Une mode? Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose que tout le monde a envie de faire en même temps et personne ne sait pourquoi. »« Où sont vos champs, vos troupeaux ?»«
Albâtre n'est pas agricole, disait Artus. On achète la nourriture aux cités portuaires. »«
Pourquoi ?»«
Je ne sais pas, parce qu'on travaille pour autre chose. »
« Mais ce mendiant-là, pourquoi attend-il des bouts de métal au lieu de semer et d'élever ?»
Parfois, Artus n'avait pas de réponse. En retour, il posait 1000 questions sur la philosophie spiritualiste, dont il recevait des bribes éparses et qui l'intriguaient. Les enfants d'Albâtre aimaient les jouets, les fêtes, l'animation. Les enfants spiritualistes aimaient s'entraîner, construire, comprendre. Et, bien qu'il fût un pur enfant d'Albâtre, il se sentait plus à l'aise avec ces derniers. L'un de ses sujets favoris de conversation restait évidemment cet esprit sans corps qui continuait à le terroriser régulièrement la nuit. Soleya lui donnait des conseils, lui apprenait des chants de défense et l'entretenait longuement de ses terreurs personnelles, du maître Sornard qui était venu les tuer tous et qui se cachait quelque part. Ce fut à cette période que l'idée, inexprimée tout d'abord, mais bien réelle, vint à Artus que l'esprit sans corps qui le terrorisait et l'assassin des spiritualistes qui terrorisait ses camarades pourraient ne faire qu'un. Il ne s'en ouvrit pas à sa mère, cependant, qui paraissait éviter le sujet autant que possible et feignait de croire devant Artus que tout cela appartenait au passé. Incidemment, cependant, quand il pensait à lui, quand, la nuit, il percevait sa présence, il prit l'habitude de changer ce « lui » indistinct en un nom bien sonore et de l'appeler en son fort intérieur Sornard. Cela le rassurait un peu, comme si de connaître le nom de l'esprit lui donnait une sorte de prise sur lui. Il lui parut d'ailleurs que dès qu'il commença à l'appeler par son nom, l'esprit vint moins souvent le visiter. Marvan aimait à visiter la haute ville, dont l'architecture majestueuse agissait sur ses sens. Mais les autres enfants préféraient leur véritable royaume, les faubourgs, où ils régnaient en maître comme une nuée de génies et de fées. L'exode de la basse ville avait été rapide et colossal. Le transfert de population s'était fait en quelques semaines à peine, et les faubourgs demeuraient là, intacts encore, mais destinés à la ruine, vestiges haïs de la caste inférieure que l'on n'osait pas détruire, mais qu'on avait pris en haine. Les seuls habitants qui y résidaient encore étaient pour la plupart âgés et passaient dans ces bâtisses lézardées avec des silences de fantômes. Les chafouins, jouissant d'une liberté quasi totale, avaient investi des quartiers entiers. Ils entraient par les portes, montaient par les escaliers, se déplaçaient par les rues, tout à fait comme des humains, ce qui ne manquait pas de faire rire les enfants, qui étaient tous capables de les repousser d'un simple regard.
« Crois-tu qu'ils vont ouvrir une boutique ?» disait l'un d'eux.
Et leur attention était aussitôt attirée par un combat ou un accouplement, ou le spectacle d'une femelle avec ses petits chapardeurs, qui de tous étaient leurs préférés. Parfois, les enfants investissaient un ou plusieurs bâtiments et s'adonnaient à des activités spirituelles. Ils essayaient souvent la transe collective pour imiter Irène, dont Soleia contrefaisait à la perfection la voix de Verbe, et, dans l'immaturité et la souplesse de leur esprit, encore ouvert et malléable, ils réussissaient assez souvent à établir une connexion mentale. Artus, qui adorait cet exercice et qui le pratiquait assidûment avec sa mère, avait appris à projeter son esprit parmi les autres, et plusieurs fois, il servit de catalyseur à leurs transes enfantines. Mais cela ne durait jamais longtemps, car leur énergie était limitée et leur concentration intermittente, et ce qu'ils étaient capables de suivre, dans le sillage ferme et droit des adultes, ils n'étaient pas capables de le reproduire seuls et sans guide. Un jour, Artus leur parla de son frère enfermé dans le noir, et les autres lui trouvèrent un nom. Nox, le baptisèrent-ils. Artus se demandait pourquoi ils n'avaient jamais pensé à lui donner un nom. Les noms, se disait-il, étaient emplis de pouvoir. Marvan et Soleia insistèrent pour essayer une transe collective destinée à contacter Nox. Il s'ensuivit un profond malaise qui ne les incita pas à renouveler l'expérience. « Irène, disait alors solennellement Soleia, nous dit toujours de ne pas faire n'importe quoi avec l'esprit. » Ils quittaient alors le terrain inquiétant de l'esprit pour s'égayer en ville basse, où les vieillards avaient fini par les considérer avec une sorte de résignation. La petite Gretel, qui avait eu avec Naïma une relation toute particulière, s'était dès l'abord sentie attirée par ces figures parcheminées et voûtées qui les suivaient de leurs yeux laiteux. Même sans souvenir précis, elle se rappelait confusément les vieillards de la cité monastère, qui parvenaient à donner un sens à leur détachement du corps, et même à leur mort prochaine, par une aspiration continuelle à une forme de sainteté. Elle était allée leur parler, spontanément, mais là où elle s'attendait à trouver bienveillance et protection, elle n'avait reçu que rebuffades et sarcasmes. Elle renouvela l'expérience 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, la vieille femme ou le vieil homme l'accueillait avec aigreur. « Tu n'as rien de mieux à faire qu'à chafouiner par ici. Retourne à Albâtre, tu n'es pas la bienvenue chez moi. » Seul, un vieil ouvrier teinturier, qui avait les doigts à jamais bleuis aux couleurs des toges estudiantines, les accueillait toujours avec aménité. Il était furieusement bavard, et, les interlocuteurs se faisant rares ou sourds en ville basse, il se réjouissait de cette occasion d'évoquer ses souvenirs, pour la plupart véridiques, mais qu'il cousait les uns aux autres de façon si extraordinaire qu'on pouvait avoir l'impression qu'une seule journée d'un ouvrier teinturier avait été pleine de rebondissements et d'aventures. Le temps d'avant la Révolution, par sa bouche édentée, commençait à devenir mythique.
« Vous connaissiez mon père, maître Keller, à la frontière ?»«
Tu es le petit de Keller, » s'enorgueillissait le vieil homme. « Il ne devrait pas te laisser traîner comme ça, les faubourgs ne sont pas sûrs. » Le vieillard, Samos, vivait dans une grande pauvreté, et ce dénûment frappa Gretel, qui n'eut de cesse de rebattre les oreilles de toute la petite bande avec la misère de ces lieux. Pendant presque une semaine, ils utilisèrent leur temps libre à retourner un bout de terrain et à planter pépins et graines qu'ils pouvaient glaner dans les marchés de Hauteville. Il en résulta un potager assez piteux, dont le vieux Samos fut pourtant enchanté. Il n'avait jamais connu de pareils enfants et les appelait ses anges.